Bonjour à tous. Donc pour ce premier cours, nous allons voir les bases de la théorie de l'évolution, hein, son histoire, comment on a pu comprendre cette théorie de l'évolution, les grands principes et les preuves de cette théorie de l'évolution. Donc on va commencer par l'histoire de la théorie, ensuite on va voir les preuves, et ensuite on va voir les grands principes, c'est-à-dire les quatre forces évolutives. Donc il y a la sélection naturelle, mais il y a aussi d'autres forces, comme la dérive génétique, la mutation et la migration. Donc la grande question à laquelle on cherche à répondre en biologie évolutive, c'est comment les espèces peuvent être si bien adaptées à leur environnement. Hein, comme on avait vu dans la leçon inaugurale, les êtres vivants paraissent incroyablement adaptés à leur environnement, hein, comme ces plantes adaptées à la sécheresse, ces insectes qui se camouflent des prédateurs en ressemblant à des feuilles, ou au contraire qui signalent qu'ils sont toxiques en ayant des couleurs éclatantes. Ici, on voit une araignée qui est mimétique de sa proie, la fourmi. Les araignées ont 8 pattes et on voit que sa dernière paire de pattes imite les antennes, qu'elle ressemble à s'y méprendre à la fourmi. Donc la question, c'est comment ces organismes ont évolué pour être si bien adaptés, pour avoir ces formes qui peuvent paraître incroyables. D'autres types d'exemples d'adaptation qui inouïent à l'environnement, donc c'est ces orchidées trompeuses. Donc, la plupart des plantes, hein, pour produire leurs graines, ont besoin d'être pollinisées, c'est-à-dire que des insectes transfèrent le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles pour les féconder et autoriser la production de graines. Et en général, elles attirent les insectes avec du pollen, du nectar qui les nourrit. Alors, ces orchidées sont trompeuses, elles produisent aucun sucre pour récompenser les insectes, mais en fait, elles ont évolué pour imiter les femelles de ces bourdons, à la fois visuellement, mais aussi olfactivement. Elles produisent des phéromones qui ressemblent aux phéromones des femelles. Et donc, les mâles se trompent, viennent pour copuler avec ce qu'ils croient être des femelles, et ils se collent le pollen sur la tête, par là, et un peu plus tard, ils font la même chose avec une autre fleur sur laquelle ils déposent la pollen. Donc, il y a eu une adaptation progressive de ces fleurs à imiter ces femelles insectes pour se faire polliniser sans avoir à produire du sucre pour récompenser les insectes. Un autre exemple classique d'adaptation qui peut paraître incroyable à expliquer, c'est donc l'œil des vertébrés, par exemple, très complexe, avec une pupille qui permet de contrôler la quantité de lumière, une lentille qui focalise sur la rétine, donc plein d'adaptations très complexes pour faire un œil qui fonctionne très bien. Donc il y a cette adaptation des êtres vivants à leur environnement, mais à l'intérieur de chaque espèce, il y a aussi une énorme variabilité. On voit ici, dans cette même espèce de fleur, ce qu'on appelle un polymorphisme, de la variation en termes de couleurs, qui pose aussi question pourquoi il existe autant de variabilité, même au sein des espèces. Un autre exemple, donc chez ces oiseaux, ces diamants de goudes, une variation à l'intérieur de l'espèce de couleurs extraordinaires. Chez l'être humain, on connaît aussi une énorme variabilité en termes de taille, de couleur de peau, de cheveux et d'adaptation. Il y a des adaptations spécifiques pour pouvoir vivre en altitude, pour pouvoir plonger en apnée plus longtemps. Et la couleur de peau, par exemple, c'est une adaptation à l'ensoleillement. Et on y reviendra dessus. Et donc la question, c'est comment les espèces ont pu s'adapter si bien à leur environnement et pourquoi il existe encore une variabilité au sein des espèces. Alors qu'on pourrait imaginer, par exemple, s'il y a une forme qui est la plus adaptée à son environnement, pourquoi est-ce que tous les individus de cette espèce-là n'ont pas cette forme-là? Pourquoi il reste de la variabilité dans les populations? Donc ça, c'est des questions que l'être humain s'est posées depuis très longtemps, depuis l'Antiquité et même avant. Comment est-ce que les espèces peuvent être donc si bien adaptées à l'environnement? Quelle est l'origine de la vie? D'où vient l'être humain? Pourquoi est-ce que le vivant est comme il est? Pourquoi il y a autant d'espèces sur Terre? Pourquoi il n'y a pas juste une ou deux espèces capables d'exploiter toutes les ressources? Comment on peut conserver les espèces si elles sont en danger? Comment les écosystèmes aussi peuvent bien fonctionner avec toutes ces espèces en interaction? Pourquoi des fois il y a des problèmes comme des maladies qui émergent? Tout ça, c'est des questions que l'être humain s'est posé depuis très longtemps et donc a apporté des réponses au fur et à mesure différentes au fur et à mesure de l'histoire. Donc, par exemple, dans la mythologie grecque, savoir comment fonctionnaient les écosystèmes, c'était des dieux qui s'occupaient de faire fonctionner les écosystèmes, donc Diane qui régulait les animaux, les saisons, pour expliquer l'hiver et l'été, donc il expliquait que le dieu des enfers avait kidnappé Perséphone et du coup sa mère Déméter était en deuil la moitié de l'année et c'était l'hiver. Pour expliquer les maladies, c'est Pandore qui avait ouvert, alors qu'elle n'aurait pas dû, une boîte et qui a du coup libéré toutes les maladies. Pour savoir comment conserver les espèces, ben, c'était facile. On prenait un mâle, une femelle de chaque espèce animale et puis ça fonctionnait, on arrivait à recréer un écosystème. Donc ça, c'est des types de réponses qui ont été apportées. Et c'est vrai que c'était très difficile de comprendre comment des êtres vivants pouvaient être si bien adaptés. Donc William Paley, un théologiste, a écrit dans son livre que s'il trouve une pierre dans le désert, il peut expliquer qu'elle était là sans intervention particulière. Par contre, s'il trouve une montre, ça montre qu'il y a eu un ingénieur qui a inventé et construit cette montre. Il disait, pour les êtres vivants, c'est pareil, ils sont tellement bien adaptés à leur environnement, il faut supposer qu'il y a eu un dessin intelligent, un inventeur, un ingénieur qui les a créés. Alors, avec la théorie de Charles Darwin, en 1859, et son livre « L'origine des espèces par les moyens de la sélection naturelle », on a pu avoir enfin une explication naturel de comment les êtres vivants peuvent être aussi bien adaptés à leur environnement sans qu'il y ait besoin d'un ingénieur. Et on va voir d'ailleurs que les êtres vivants ne sont pas optimaux et justement pas aussi optimales qu'un ingénieur aurait pu le faire. Et donc on va repartir un peu de l'historique pour expliquer comment Charles Darwin est arrivé à développer sa théorie, à comprendre et à expliquer. Donc il faut revenir un peu en arrière de ce qu'on savait à son époque et sur quoi il a construit sa théorie. Donc pendant longtemps, on n'a pas eu besoin en fait de parler d'évolution parce que on pensait que les espèces, de toute façon, pouvaient se transformer n'importe quelle espèce en n'importe quelle autre espèce. On pensait qu'il y avait une génération spontanée, c'est-à-dire que les êtres vivants pouvaient naître de matière inerte et que donc par exemple ici on voit une vieille image où il y a des mouches qui sortent de cadavres en putréfaction, qui naissent à partir de rien, à partir de la matière inerte. Et là, on voit une image où donc, il y a des feuilles qui tombent et qui se transforment en poisson quand ils tombent dans l'eau et qui se transforment en canard quand ils tombent sur la terre. Donc, pendant longtemps, on pensait que les espèces donc, pouvaient se transformer les unes dans les autres. Et du coup, on n'avait même pas besoin, enfin, la théorie de l'évolution n'était même pas nécessaire. Alors, petit à petit, il y a eu des réfutations de cette génération spontanée et de cette transformation un peu de tout en n'importe quoi. Donc en particulier, une des premières par Francesco Redi, qui a démontré que non, les mouches ne pouvaient pas émerger de cadavres sans qu'il y ait une mouche qui est avant pondue dedans. Donc il a fait des expériences scientifiques. Donc s'il laissait de la viande pourrir dans un pot ouvert, il y a des vers qui apparaissaient, parce que des mouches pouvaient venir pondre dedans. Et par contre, si les bocaux étaient fermés, il n'y a pas de vers qui apparaissaient, parce que les mouches ne pouvaient pas venir pondre dedans. Et il faisait aussi des expériences en disant « Oui, mais bon, alors c'est peut-être l'air qui permet la génération spontanée. » Donc, il avait aussi fermé un filet qui laissait passer l'air, mais pas les mouches. Et donc, il n'y avait toujours pas de ver. Donc, il y a eu plein d'autres expériences qui montraient qu'il n'y avait pas de génération spontanée et pas de transformation. Et donc, on a pu en arriver à un système de fixisme des espèces, c'est-à-dire que les espèces sont stables et ne bougent pas dans le temps. Et quelque part, c'était une étape nécessaire pour après construire dessus la théorie de l'évolution telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc en particulier, Carl Forlinné a fait un système de classification des espèces, un des premiers systèmes de classification, en particulier chez les plantes, basé sur les systèmes de reproduction des plantes. Donc il a classé en espèces, en genres, en familles, en ordre. Et pour lui, ça rendait compte du plan établi par Dieu. Et donc, pour chaque espèce, il y avait un peu un type idéal qui aurait été celui créé par le créateur et que, d'ailleurs qu'on déposait dans les herbiers, qui était le type de l'espèce. Et donc, dans cette vision-là, toutes les variations au sein des espèces n'étaient pas du tout importantes. C'était juste la variation pas importante autour d'un type idéal. Alors qu'on va voir au contraire que la variation est capitale en fait, dans la théorie de l'évolution. Alors, petit à petit, on s'est aperçu quand même dans les registres fossiles, et en particulier Cuvier, qui a vraiment fondé la paléontologie, et en arrivant à reconstruire à partir de débris fossiles des animaux et à reconstruire une séquence d'animaux, il s'est aperçu quand même qu'il y a des animaux qui existaient avant et qui n'existent plus actuellement. Il a réussi aussi il a un peu développé la façon de dater les couches sédimentaires. Et donc, il s'est dit, oui, il y a des animaux qui existaient avant qui n'existent plus, puis il y a plusieurs périodes, des nouveaux animaux qui sont apparus. Et donc, il était toujours convaincu de fixisme, que les espèces ne changent pas. Mais donc, pour expliquer le fait qu'il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent, il était un grand fervent de ce qu'on appelle le catastrophisme, c'est-à-dire qu'il y a des grandes périodes où il y a des extinctions d'espèces et Dieu recrée d'autres espèces par des séismes, des météorites, des grandes catastrophes, et régulièrement, des espèces qui apparaissent, d'autres disparaissent, mais elles ne bougent pas. Mais alors, tant qu'on pensait que la Terre avait 4000 ans, c'était difficile d'imaginer l'évolution des espèces sur autant de temps. Et donc, un des premiers qui a reculé l'âge de la Terre, c'est Buffon, qui a été un naturaliste aussi et qui s'est intéressé. Donc, alors, il s'est dit, au départ, la Terre était une boule de feu. Donc, étant donné la matière qu'il y a dedans, les différents minéraux, étant donné le temps que ça met à refroidir une boule de feu, étant donné différents minéraux qu'il peut y avoir dedans. Donc, il a acheté des forges et il a fait chauffer différents types de matériaux, des métaux, de l'argile, du marbre, et regarder le temps que ça mettait à refroidir. Et donc, il en a estimé l'âge de la Terre, étant donné la taille qu'elle avait et de quoi elle était constituée. Donc, il est arrivé à l'âge de 75 000 ans, qui nous paraît ridiculement petit actuellement, mais qui était déjà énorme par rapport à l'âge à l'époque de 4000 ans. Il y a même dans des lettres, il dit même qu'il avait estimé en fait au moins à 3 millions d'années, mais qu'il n'avait pas osé le dire de peur des réactions, en particulier de l'Église à l'époque, qu'il valait mieux être plat que pendu. Il préférait dire que c'était 75 000 ans, qui était déjà énorme à l'époque. Alors ça paraît, évidemment, ces estimations étaient plus faible que ce qu'on connaît actuellement, en particulier parce qu'il y a une chaleur interne à la Terre qui continue à réchauffer, notamment la radioactivité. Mais donc, ça a été une étape aussi importante, de savoir qu'on avait du temps. Et on va voir que c'était une idée très importante pour Charles Darwin, le nombre de générations nécessaires pour l'évolution. Et donc, petit à petit, il y a plusieurs scientifiques qui ont commencé à émettre l'idée que les espèces pouvaient évoluer. Et donc, en particulier, Jean-Baptiste Chevalier de Lamarck, qui a fait un peu la première vraie théorie scientifique de l'évolution. Suivant son idée, il y avait de la génération spontanée régulièrement, des nouvelles lignées apparaissaient régulièrement, et elles se complexifiaient au cours du temps par une espèce de dynamique interne. Surtout, ce qui est important pour lui, c'est que le mécanisme de complexification des êtres vivants, c'était l'hérédité des caractères acquis. C'est-à-dire l'idée, si on prend l'exemple du cou de la girafe, c'est-à-dire que les girafes, pour pouvoir manger des branches un peu en hauteur, elles étirent leur cou, et à force de s'étirer le cou, ils s'allongent et ils passent à leurs descendants le cou plus long qu'ils ont acquis pendant leur vie. Et donc, le cou des girafes s'allonge. Et donc, il faut bien comprendre que le mécanisme, c'est un changement pendant la vie d'un individu et qui passe ces changements à ses descendants. Et donc, il y a eu plusieurs réfutations de cette idée d'hérédité des caractères acquis. Et une était assez connue, celle d'August Weismann, qui a coupé les queues de souris pendant des générations et des générations. Et les souris ne sont jamais nées sans queue, qui aurait été l'hérédité des caractères acquis. Et donc, sur ce contexte, Charles Darwin est parti dans un voyage autour du monde. Il a été embauché en tant que naturaliste à bord du Beagle, donc entre 1831 et 1836. Donc, ils ont fait le tour du monde pour ramasser des échantillons. Une des choses qui l'a marqué pendant ce voyage, c'était la compétition qu'il voyait partout, c'est-à-dire des milieux, en particulier des forêts luxuriantes, où il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Il y a plein de graines qui sont produites, plein de nouveaux petits individus qui sont produits, et tous n'ont pas assez de ressources pour pousser, pour arriver à l'âge adulte. Donc il n'y a pas assez de ressources pour tous les individus qui naissent. Ça, c'était une idée vraiment capitale qu'il s'est rendu compte pendant son voyage, la compétition. Une autre observation qui a été capitale pour lui, c'était l'observation d'organismes vivants qui étaient sur des îles différentes, sur des archipels, donc notamment les Galapagos. Donc il y a plusieurs îles, et par exemple, il y a des tortues qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont quand même différentes d'une île à l'autre. Et les autochtones les reconnaissaient, ils avaient des noms spécifiques, c'était des formes vraiment différentes. mais qui se ressemblaient de façon très étonnante. Ou ces pinsons, hein, les fameux pinsons de Darwin, où, pareil, ils ont des becs un peu différents. Sur chaque île, il y a une forme un peu différente, mais qui se ressemblent vraiment beaucoup. D'autres choses qui ont été capitales à Darwin pour développer sa théorie de l'évolution, c'était des lectures qu'il a faites d'un certain nombre de scientifiques, donc en particulier les livres de cet économiste britannique Malthus, qui avait théorisé le fait que l'augmentation de la population humaine, par exemple, est exponentielle, alors que l'augmentation de la production de nourriture est linéaire. Et donc il y a un moment où ça coince, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Et donc on revient à l'idée qu'il y a plus d'individus qui naissent que d'individus qui peuvent arriver à l'âge de reproduction. Donc encore une compétition pour les ressources. Une autre lecture qui a été très importante pour Darwin, c'était celle du géologiste Charles Lyell, qui, contrairement à Cuvier, donc qui avait l'idée du catastrophisme, c'est-à-dire que globalement les espèces ne bougent pas pendant un moment, puis tout d'un coup il y a une grande catastrophe qui fait des grands changements. Ce géologue, Charles Lyell, disait que tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le résultat de forces qui agissent tout le temps, mais sur des très grandes durées de temps, quelque chose qui fait des changements imperceptibles sur le temps humain peut causer des choses qui paraissent extraordinaires et qu'on pourrait imaginer auraient besoin d'événements catastrophiques. Donc, par exemple, un petit ruisseau qui coule, qui nous paraît avoir pas beaucoup de puissance, pas beaucoup d'effet, sur des énormes durées de temps, des temps géologiques, ça peut produire des canyons. Il n'y a pas besoin d'événements, de catastrophes particulières pour expliquer ça. Des causes qui se produisent au jour le jour, qui à l'échelle humaine paraissent n'avoir pas d'effet, sur des grandes durées de temps, peut avoir des effets extraordinaires. Ça, c'était une idée vraiment capitale pour que Darwin ait pu développer sa théorie. Et donc finalement, donc là, on voit son petit carnet, un petit carnet de bord où il avait écrit et dessiné un petit arbre généalogique, phylogénétique. Et donc, c'est toutes ces observations qui l'ont amené à la théorie de l'évolution par sélection naturelle. C'est le fait qu'il y avait de la variation dans les populations. Et lui, donc, contrairement à Linné et à l'idée à l'époque, il considère la variation très, très importante, pas juste quelque chose des monstres autour d'un type idéal. Il y avait de la variation, les individus étaient différents. Il y a une reproduction qui est plus importante que ce que peut supporter le milieu, donc il y a plus d'individus qui naissent que ce qui peut survivre. Et comme il y a de la variation dans les populations, ceux qui survivent mieux passent ces caractéristiques qui augmentent en fréquence dans les populations, à cause de cette compétition donc, pour les ressources, et surtout sur des temps géologiques, l'âge de la Terre a été reculé, qu'il y a des petits effets qui, à l'œil humain, on n'a pas l'impression qu'on peut avoir un gros effet, sur des temps énormes, peuvent avoir des gros effets. Et donc, il est venu à sa théorie de l'évolution par sélection naturelle. Et donc, si on compare le principe à celui de Lamarck, donc Lamarck, c'était l'idée que les girafes étirent leur cou pour aller manger leurs branches en hauteur. L'idée de Darwin, c'est qu'il y a de la variation dans les populations. Il y a des girafes qui ont des coups plus ou moins longs. Les girafes qui ont des coups plus longs arrivent à mieux se nourrir, survivent mieux. Celles qui ont des coups plus longs, plus courts, meurent plus. Et donc, il ne reste dans la population que les girafes aux coups les plus longs, qui transmettent à leurs descendants ces coups les plus longs. Et donc, en moyenne dans la population, de génération en génération, les girafes ont un cou plus long. Mais il faut bien comprendre que c'est un tri des individus, une compétition. Et ça veut dire qu'il y a des individus qui se reproduisent moins ou qui survivent moins que les autres. Une autre façon d'illustrer ce principe, c'est de dire qu'il y a de la variation dans les populations. Ici, les individus sont plus clairs, plus petits ou plus gros, plus bleus. Ils ne changent pas pendant leur vie. Ils restent exactement pareils. Ici, les individus plus gros et plus foncés survivent mieux ou laissent plus de descendants. Et donc, ils passent leur caractère à leurs descendants. Et donc, on voit si ça se produit sur plein de générations. Les individus qui portent des caractères qui survivent mieux ou se reproduisent mieux, nécessairement augmentent en fréquence dans les populations. Une autre façon de le représenter, c'est donc la théorie de l'évolution par sélection naturelle avec ses différentes composantes absolument essentielles pour que ça fonctionne. Donc, il faut qu'il y ait de la diversité dans les populations, de la variation. Ici, il y a des coccinelles grises ou rouges. Il faut qu'il y ait de l'héritabilité, c'est-à-dire que les caractères soient transmis aux descendants. Donc ici, les coccinelles sont gris, fassent plutôt des descendants qui sont gris, et les coccinelles rouges, des descendants qui sont rouges. Il faut qu'il y ait une différence de survie ou de nombre de descendants. Ici, les coccinelles rouges sont moins mangées parce qu'elles sont toxiques et elles sont reconnues par les prédateurs. Donc, elles sont moins mangées, elles survivent mieux. Donc, de génération en génération, la proportion de coccinelles rouges augmente jusqu'à envahir la population. Et donc, un deuxième aspect de la théorie de Darwin qui en découle, c'est que toutes les espèces ont un ancêtre commun, dérivent d'un ancêtre commun par diversification au cours du temps, au cours des temps géologiques. Donc, une autre façon de voir la différence entre Lamarck et Darwin, la théorie de Darwin, c'est qu'il y a un ancêtre commun à tous les êtres vivants actuels qui se sont diversifiés progressivement au cours du temps, alors que Lamarck, l'idée, c'est qu'il y avait plusieurs lignées avec des générations spontanées régulièrement et une complexification au cours du temps par l'hérédité des caractères acquis, par une dynamique interne, alors que chez Darwin, il n'y a pas de dynamique interne, il n'y a pas de direction dans l'évolution, c'est juste s'il y a des variants, comme on dit maintenant, des variants génétiques qui font qu'un individu se reproduit plus que les autres ou survit mieux, forcément, ces gènes seront surreprésentés dans la génération suivante. Donc, dans le livre de Darwin, il n'y avait qu'une seule figure, dans le livre L'origine des espèces. Donc, on voit au cours du temps des lignées se diversifier. Alors, ce qui est intéressant, donc on voit à chaque nœud plusieurs lignées qui apparaissent et seulement les deux lignées opposées arrive à persister. Donc il a symbolisé comme ça l'idée de compétition. Il fallait qu'il soit plus différent pour persister. Et alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'avait pas mis des niveaux. Il ne disait pas que c'était des espèces ou que c'était des variétés. Il n'a pas mis des noms d'espèces, pas de hiérarchie. C'était vraiment une diversification au cours du temps qui pouvait se produire à plusieurs niveaux, au niveau population, variété, espèce. Et ce qu'on voit bien ici, donc c'est un équilibre dynamique. Il y a tout le temps évolution, tout le temps diversification, extinction. Et donc la biodiversité qui est générée ainsi, il y a un équilibre dynamique qui évolue en permanence, qui se diversifie avec des espèces qui s'éteignent, des variétés qui s'éteignent, d'autres qui se forment en s'adaptant à l'environnement. Alors après, il y a eu d'autres façons de représenter ces arbres du vivant. Et en particulier pas toujours optimal, par exemple, Haeckel, donc il a repris un arbre tel que, suivant le modèle de Darwin, un arbre des espèces, mais donc il a remis l'homme tout en haut, et puis les protistes, les vers, les choses un peu inférieures, tout en bas. Donc on sait maintenant que c'est une très mauvaise façon de représenter l'arbre du vivant, on ressemble pas du tout à ça, il n'y a pas de hiérarchie ou de direction. Maintenant qu'on a accès à l'ADN, on peut séquencer... Un même fragment d'information génétique, un même gène dans plein d'espèces vivantes, et tracer vraiment l'arbre de la vie tel qu'il existe. Donc ici, plus des clades ou des espèces sont proches, plus ils sont proches génétiquement, donc plus ils ont un ancêtre commun récent. Et donc ce qui a été vraiment très étonnant quand on a eu donc accès à l'ADN, à l'information génétique, de retracer cet arbre de la vie, donc déjà il y a trois domaines très différents. Et il y a deux domaines, donc une diversité énorme qui est constituée seulement de bactéries. Ici, les bactéries, et là, ce qu'on appelle des archées, qu'on trouve par exemple dans des milieux assez extrêmes, les fumeurs noirs. Et, donc, dans le domaine des eucaryotes, ceux qui ont un noyau dans lequel ils enferment leur ADN, dans lequel on trouve les animaux, les plantes, même dans ce domaine des eucaryotes, on voit que les animaux, c'est vraiment juste une toute petite branche. L'immense diversité même des eucaryotes, c'est des êtres unicellulaires microscopiques dont on ne réalisait pas l'importance de la diversité et de l'abondance sur Terre. Donc les plantes, c'est pareil, sont très éloignées des animaux, mais pareil, représentent une toute petite branche de l'arbre de la vie. Et les champignons, pendant longtemps, qui ont été considérés comme étant des plantes, on s'est aperçu qu'en fait, c'est un groupe frère des animaux. Ils sont très proches, ils sont diversifiés, ils se sont différenciés il n'y a pas très longtemps des animaux, alors que les plantes, on voit, sont vraiment à l'opposé de ce groupe des eucaryotes. Et donc, il y a une diversité énorme, et bien au-delà des plantes et des animaux qui ont été les plus étudiés pendant longtemps. Une autre façon de représenter l'arbre de la vie, donc c'est sous forme de buisson. Il faut bien imaginer qu'il y a une diversité énorme et buissonnante. Et que, alors si on, donc là, encore une fois, on voit ici les champignons, les archées, les bactéries, Donc ici les eucaryotes, et on voit l'homme, il n'est pas tout en haut de l'arbre, il est juste un petit rameau au milieu d'un énorme buisson avec une diversité inouïe. Et d'ailleurs, l'homme n'est pas du tout lui-même la dernière espèce des primates qui s'est différenciée. Si on reconstruit l'arbre généalogique, donc encore une fois, la distance représente le temps depuis leur divergence. On voit que l'être humain s'est différencié, ce n'est pas la dernière espèce qui s'est différenciée parmi les primates. Donc évidemment, ça replace l'être humain dans l'arbre de la vie, dans la diversité. Donc il y a eu beaucoup d'opposition à son époque, que ça a bouleversé évidemment beaucoup la société, la vision de la vie et de l'être humain au sein de la diversité de la vie. Et encore actuellement, il y a beaucoup d'opposition. Donc on voit là, sur un billet en Angleterre, « He was wrong », il avait tort. Et donc on va voir pourtant, il y a beaucoup de preuves scientifiques qui appuient cette théorie. Alors une des critiques, ce qu'on peut entendre sur la théorie de l'évolution, c'est que c'est qu'une théorie, mais c'est une théorie au sens scientifique, justement. C'est-à-dire que c'est testable, c'est-à-dire qu'on peut faire des hypothèses et on dit, si j'obtiens ce résultat, ça valide mon hypothèse. Si j'obtiens ce résultat, ça infirme mon hypothèse. Donc on peut tester cette théorie. Et jusqu'ici, elle a résisté au test. Donc c'est, oui, une théorie scientifique. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui l'appuient. Donc un élément, je vous ai dit, qui était absolument essentiel au fonctionnement de l'évolution par sélection naturelle, c'est l'héritabilité. C'est-à-dire que pour que le tri change ensuite la composition des populations, il faut que ceux qui ont mieux survécu passent à leurs descendants leurs caractéristiques. Alors, Darwin, à l'époque, n'avait aucune idée de ce mécanisme. Et d'ailleurs, il n'était pas complètement contre l'hérédité des caractères acquis. Il n'avait pas dit que c'était complètement faux. Il n'avait pas de mécanisme qui expliquait cette héritabilité, cette hérédité des caractères. Et pourtant, on sait qu'il avait les livres de Mendel qui apportaient la réponse. Bon, on n'est pas sûr s'il l'a lu. En tout cas, il n'a pas compris l'importance. Et d'ailleurs, personne n'a compris pendant très longtemps l'importance des travaux de ce moine autrichien qui a été redécouvert bien longtemps après. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il s'amusait à croiser des haricots dans son jardin, des milliers et des milliers. Il a analysé des milliers de descendants. Et donc, ce qu'il retrouvait, c'est que, donc, par exemple, il croisait des haricots qui avaient des graines jaunes lisses avec des haricots qui donnaient des graines plus vertes et ridées. Et en première génération, souvent, les graines étaient toutes pareilles, de la forme d'un des parents. Mais en deuxième génération, ça reségrégeait, c'est-à-dire qu'il retrouvait les caractères parentaux. Ça veut dire qu'il ne s'était pas dilué dans les descendants. Il retrouvait les deux types des caractères parentaux et en proportion toujours identique. Mathématiquement, il refaisait ses stats, c'était toujours les mêmes proportions. Et donc ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a des caractères qu'on appelle de l'hérédité particulière et pas par mélange. On pourrait imaginer que les haricots qu'il a croisés, ça se mélange, c'est-à-dire que ça donne un mélange entre le jaune et le vert, ces graines. Mais non, en deuxième génération, ça reségrège en des graines jaunes et des graines vertes, ou des graines ridées et des graines lisses. Il n'y a pas de mélange entre les parents, les caractères des parents restent séparés et peuvent être transmis indépendamment aux premières générations, deuxième génération, troisième génération. Et donc ça, c'est vraiment capital pour que la théorie de la pour que l'évolution par sélection naturelle puisse fonctionner. Si on imagine, par exemple, si l'hérédité fonctionnait par mélange et qu'il y a un nouveau variant très bénéfique qui apparaît dans la population, il serait très vite dilué, il ne pourrait pas être sélectionné. C'est parce qu'il y a une hérédité, c'est parce que donc, la façon dont on l'explique aujourd'hui, par l'information génétique, s'il y a une mutation bénéfique qui apparaît, elle reste en tant que mutation bénéfique et elle peut augmenter en fréquence dans la population, elle n'a pas mélangé, dilué parmi toutes les variations qui existent. Et donc effectivement, c'est en 1953 qu'on a découvert la molécule responsable de l'information génétique. Donc c'est Watson et Crick qui ont eu le prix Nobel, alors que Rosalind Franklin a été beaucoup oubliée dans cette histoire, alors que c'est elle qui avait fait les clichés absolument indispensables par diffraction de l'ADN, et donc que Watson et Crick lui avaient subtilisé son accord, et elle a été oubliée pendant longtemps de toute reconnaissance. Donc c'est assez général, hein, tant chez les femmes en sciences pendant très longtemps et encore maintenant, ça a même été théorisé sous le terme de l'effet Matilda, de minimiser, voire invisibiliser le travail des femmes en sciences. Et ça, Rosalind Franklin est un très bon exemple. Donc, depuis, hein, ça a été vraiment essentiel pour donner toute une nouvelle dimension à la théorie de l'évolution, de savoir quelle est la base de cette héritabilité, de cette hérédité. Donc c'est la molécule d'ADN, hein, cette double hélice qui est logée dans nos chromosomes, dans les noyaux chez les eucaryotes, dans les cellules, dans chaque cellule. Et donc elle porte l'information génétique, hein, avec quatre paires de bases qui codent pour des protéines, qui donnent l'information génétique et donc qui est transmise des descendants, des parents aux descendants. Et donc avec cet aspect de l'information génétique, il y a eu ce qu'on appelle une synthèse néo-darwinienne dans les années 1930 et 1940, avec des biologistes, mais aussi beaucoup de mathématiciens. Donc en évolution, et Ophélie va vous en parler plus après dans notre séminaire, on utilise beaucoup de modèles mathématiques, parce que l'évolution, c'est quelque chose qui se produit sur des énormes durées de temps. Donc on ne peut pas toujours faire des expériences pour tester des idées, et donc on utilise beaucoup la modélisation pour voir si les idées peuvent tenir. Et donc cette synthèse néo-darwinienne a incorporé en particulier la génétique des populations, donc avec un formalisme mathématique pour expliquer comment les fréquences des variants changent d'une génération à l'autre et avec les différentes forces évolutives qu'on va voir dans la suite. L'évolution par sélection naturelle, hein, donc là, maintenant la façon dont on le dit actuellement, donc il y a de la variation génétique dans les populations. Il y a une variation phénotypique, les individus ont des caractères ou des comportements différents, et ces comportements, caractères sont en partie dus à de l'information génétique qui est différente entre individus, et donc ils passent cette information génétique. Et donc si cette variation-là est au moins en partie due à des variations génétiques et qu'il y a une différence de survie ou de reproduction, ben, nécessairement ça change la fréquence des variants génétiques dans la population, et donc ça fait évoluer les populations, elles s'adaptent, elles changent de fréquence de ces variants génétiques. Donc ça, c'est l'histoire, la théorie de l'évolution, sa genèse, et donc on va voir maintenant différentes preuves de cette évolution par sélection naturelle. Un premier type de preuve, et qui a été utilisé par Darwin dans son livre, c'est la sélection artificielle. Donc, vous voyez par exemple ici des différentes races de chiens qui ont été domestiquées par l'homme. L'homme a sélectionné différents individus chiens qu'il trouvait avec une meilleure couleur, un meilleur comportement, une meilleure taille. Il a autorisé à se reproduire seulement ces individus-là qu'il préférait. Et donc, au fur et à mesure, ça a changé la composition des populations, ça a donné des races très différentes. Et donc, l'homme a domestiqué ces races de chiens à partir du loup en seulement 20 000 ans. Et c'était le premier organisme vivant domestiqué. 20 000 ans, c'est rien, hein, par rapport aux millions d'années d'évolution. Et on voit que déjà en 20 000 ans, par sélection, on a pu générer des races absolument différentes. Donc, on voit bien que sur des millions d'années, oui, on peut imaginer que des espèces très, très différentes ont pu être diversifiées, être générées par sélection naturelle, par ce même tri, mais qui n'est pas fait par l'homme, mais par le milieu. Donc Darwin, lui, s'était beaucoup appuyé sur la domestication du pigeon. On voit aussi différentes races de pigeons qui ont été générées, pareil, par sélection artificielle, par l'être humain à partir du pigeon ramier. Et donc l'idée, c'est comme la sélection naturelle, c'est on part d'une population de départ qui est du pigeon sauvage, assez gris, et imaginons qu'on veut faire une race très blanche, une colombe par exemple. On va choisir les individus les plus blancs, les plus clairs dans cette population. On va laisser seulement ces individus-là se reproduire. Et à chaque génération, on fait pareil, on prend les individus les plus clairs pour les autoriser à se reproduire. Et bien, de génération en génération, on va avoir des populations de plus en plus blancs. On génère une nouvelle race, une nouvelle variété plus blanche. C'est vraiment de la sélection, là artificielle, mais la sélection naturelle fonctionne exactement sur le même principe. Donc on a domestiqué beaucoup d'organismes vivants sur ce même principe, par exemple différentes formes de choux à partir de cette espèce de chou sauvage. Et donc on a L'être humain a pris les individus, alors il a transformé différentes parties de la plante, hein, soit les fleurs, les feuilles, les bourgeons, il les a transformés en différentes variétés de choux. Et on voit drastiquement différentes, hein, par rapport aux choux sauvages, et pareil, en très peu de temps. Donc la sélection est extrêmement puissante pour générer des nouvelles variétés, des nouveaux organismes vivants. Un autre exemple de domestication, c'est la domestication du maïs. Donc on voit ici un maïs actuel, hein, avec une seule tige, des épis très gros, avec des gros grains, plein de ressources, plein d'amidon, les grains restent sur la tige, plus faciles. Donc le fait qu'il y ait une seule tige, que les grains restent sur la tige, ils sont plus faciles à récolter. Alors que l'ancêtre sauvage, hein, qu'on appelle la théosinte, on voit ici son fruit, donc avec très peu de ressources, des grains très durs, très difficiles à manger, qui en plus dispersent dès qu'ils sont mûrs, avec plein de tiges qui sont plus difficiles à récolter. Donc l'être humain a sélectionné beaucoup de caractéristiques qui facilitaient la culture, qui permettaient d'avoir plus de ressources dans les fruits. Donc, en relativement peu d'années par rapport à l'évolution naturelle, a réussi à changer drastiquement. Un organisme vivant en quelque chose qui apparaît très différent. Un autre type de preuve de l'évolution, évidemment, c'est les fossiles. Donc, on voit par exemple ici, on peut trouver des formes intermédiaires entre des mammifères terrestres et des mammifères marins. Une série graduelle qui montre des transformations progressives pour une adaptation à un nouveau milieu, ici le milieu marin. Et qui montre aussi, hein, qu'il n'y a pas une direction unique dans l'évolution. Hein. Les premières formes de vie étaient marines. Plus à petit, sont sorties de l'eau, mais certaines sont retournées à l'eau. D'autres exemples de gradation progressive qu'on trouve dans les fossiles, c'est cette évolution graduelle de la forme des coquilles des foraminifères. Hein. C'est des petits organismes, des protistes qui forment des coquilles comme ça en calcaire ou en silice. Et donc là, on voit, en fonction du temps des séries fossiles, une transformation à partir d'une coquille complètement plate à une coquille conique, à deux endroits différents, deux séries de fossiles différents, et une évolution graduelle vers une forme de coquille plate à coquille conique, graduellement au cours du temps. D'autres types de preuves de l'évolution, c'est le fait qu'il y ait des structures homologues entre les êtres vivants. Par exemple, si on regarde des pattes d'être humain, une patte de chat, une patte de baleine, une aile de chauve-souris, donc ça paraît des organes très différents. Et pourtant, en fait, ils sont fabriqués à partir des mêmes types d'os, mais qui ont juste des tailles un peu différentes, des organisations les uns par rapport aux autres un peu différents, mais qui, donc on voit les couleurs, là, correspondent à des origines identiques, à la fois embryologiquement parlant et évolutivement parlant, phylogénétiquement parlant. Et donc on voit bien qu'il y a une transformation au cours du temps, à partir de quelque chose qui existait chez l'ancêtre commun, une transformation des mêmes choses pour donner des formes complètement différentes. Et donc ça montre bien, et on y reviendra aussi, que comme avait dit Jacques Monod, hein, l'évolution ne tire pas ses nouveautés du néant, elle travaille sur ce qui existe déjà. La sélection naturelle opère non à la manière d'un ingénieur, mais d'un bricoleur. C'est-à-dire qu'à partir d'un organisme qui existe, de mutations qui se produisent au hasard, les variations qui permettent de mieux survivre ou de donner plus de descendants augmentent en fréquence, mais pas comme un ingénieur qui optimiserait au mieux à partir de rien. L'évolution, le travail, c'est vraiment à partir d'un organisme qui existe, de nouvelles mutations qui apparaissent, qui sont au hasard, qui sont sélectionnées ou pas, et donc ça ne donne pas des organismes qui sont optimaux. Hein, par exemple, si on reprend nos cétacés, on voit un petit os ici, ce qu'on appelle un organe vestigial, qui sont en fait des restes atrophiés de ces pattes qui étaient des pattes chez les ancêtres à quatre pattes, qui ne servent plus à rien chez ces baleines, mais qui sont encore là, qui n'ont pas encore complètement disparu, hein, donc qui montrent bien que l'évolution fonctionne en bricoleur, que ce n'est pas comme un ingénieur qui n'aurait aucune raison de mettre là ces pattes qui ne servent à rien. Mais ça se comprend très bien, si on voit l'évolution en termes de transformation depuis un ancêtre commun, progressive, à partir de mutations qui se produisent. D'autres exemples, hein, du fait que les êtres vivants ne sont pas complètement optimaux, comme ferait un ingénieur, mais qui montrent que c'est vraiment le résultat d'un bricolage de la façon dont fonctionne l'évolution. Donc, c'est quand on compare ces embryons, hein, donc de poissons, tritons, oiseaux, moutons, êtres humains, et bien, à un stade précoce du développement, l'embryon, ben, ils portent tous des queues et des branchies qu'ils n'ont pas à l'âge de l'être humain, on n'a pas de queue et de branchies à l'âge adulte. Donc ça, un ingénieur n'aurait aucune raison de mettre des queues et des branchies. Ça se résorbe après au cours du développement. Mais ça se comprend très bien, pareil, si on comprend l'évolution comme des transformations progressives à partir de mutations qui se sont produites, et toutes les mutations possibles qui optimiseraient au mieux ne sont pas forcément produites. Donc à partir d'un ancêtre qui vivait dans l'eau, il y a eu une transformation progressive, mais il reste toujours un stade embryonnaire où on a une queue et des branchies. Un reste aussi de nos ancêtres primates, hein, c'est souvent les bébés êtres humains naissent avec ce qu'on appelle un lugano, un duvet assez important, qui perdent assez rapidement, donc qui ne sert à rien, hein, mais qui est le reste de caractère qui a été avantageux chez les ancêtres. Un autre exemple d'évolution en bricolage et qui montre que tout n'est pas optimal. Hein, donc, si on reprend l'exemple de l'œil des vertébrés, il paraît extrêmement performant, voire optimal. Et pourtant, donc, si on le compare à l'œil de la pieuvre, qui ressemble étonnamment, hein, qui pourtant a évolué indépendamment, donc il y a eu évolution indépendante vers la même forme, plusieurs fois indépendamment, là, on voit que l'œil de la pieuvre est plus optimal que l'œil des vertébrés. Chez l'œil de l'être humain, on voit les cellules photoréceptrices ici, elles sont dirigées vers le corps et pas vers la lumière. Donc la lumière, pour stimuler ici les cellules photoréceptrices, elle doit traverser les nerfs optiques et ces cellules. Donc on perd beaucoup d'informations, on voit beaucoup moins de lumière et beaucoup moins net qu'on pourrait voir. Alors que si on voit l'œil de la pieuvre, par exemple, les cellules sont tournées du bon côté. C'est beaucoup plus efficace. Et du coup, en fait, comme elles sont dans le mauvais sens, les nerfs optiques, en passant, ils créent un point aveugle ici où il n'y a aucune cellule photoréceptrice. Et donc, on a effectivement un point aveugle dans l'œil que n'a pas la pieuvre, hein, puisqu'elles sont dans le bon sens. Il n'y a pas de point aveugle ici. Et donc, ça monte bien. Hein. Donc, il y a eu une optimisation, une amélioration progressive pour donner un organe qui est déjà extraordinaire, mais qui n'a pas fait au mieux comme aurait fait un ingénieur le plus optimal possible. Un autre exemple est que donc, Richard Dawkins avait disséqué en direct, en vidéo, en 2009, une girafe pour montrer ce nerf laryngé récurrent gauche qui est pareil pas très optimal. Donc, c'est un nerf qui passe du larynx au cerveau pour le stimuler. Mais au lieu de passer directement du larynx au cerveau, il passe sous l'aorte. Donc, il fait un détour inutile. Donc, chez l'être humain, il fait un détour. Mais chez la girafe, du coup, ce nerf, au lieu de faire seulement 5 cm comme il pourrait faire en passant directement du cerveau au larynx, il fait 5 mètres. Et on peut imaginer chez les dinosaures, pareil, c'est absolument pas optimal. Mais ça s'explique très bien. Donc, chez les poissons, ce nerf, il était linéaire. Et puis, petit à petit, le cou s'est allongé. Il s'est allongé en restant sous l'aorte, petit à petit. Et il n'y a pas eu de mutation qui l'a fait hop, passer directement. Là, c'est vraiment une modification depuis un ancêtre et qui ne donne pas à la fin quelque chose de complètement optimal, qui est le résultat d'une évolution. Donc, il y a plein d'autres exemples, hein, par exemple ce qu'on appelle les organes vestigiaux, donc l'appendice humain, donc qui ne sert plus à rien, voire qui peut être vraiment embêtant dans certains cas, qui s'infecte. Donc ça servait, chez un ancêtre, à digérer des matières végétales crues qui ne sert plus trop actuellement, mais on l'a gardé. Le coccyx aussi, hein, cet os-là, c'est un reste d'une queue préhensible des ancêtres de l'être humain. Donc maintenant, c'est des vertèbres qui maintenant sont soudées. Comme je vous disais, l'embryon humain a une queue à un certain stade de développement qui se résorbe après. Et donc on a toujours ce coccyx qui ne sert à pas grand-chose, mais qui sont des restes de cette queue préhensible. Donc les dents de sagesse, hein, pareil, c'est un organe vestigial. Il y a des êtres humains qui n'en ont plus, d'autres qui elles sortent plus, ou voire elles peuvent vraiment poser des problèmes en occupant trop de place ou en poussant pas droit, et qui sont des restes d'un ancêtre qui avait un régime alimentaire où il devait beaucoup plus mastiquer du végétal très dur, des racines, et donc c'est un organe, une preuve d'évolution. Un autre organe vestigial chez l'être humain, c'est ce muscle long palmaire. Il y a 14% à peu près des êtres humains qui ne l'ont plus. On voit ici, en mettant ses doigts comme ça, on voit si on l'a ou pas. Et donc, il servait chez des ancêtres primates pour passer d'arbre en arbre et qui ne nous sert plus à rien, mais qui a été perdu chez certains individus, chez certaines lignées, et conservé chez d'autres. Un autre organe, dernier organe vestigial, c'est l'être humain, c'est ce pli semi-lunaire ici, cette petite excroissance qui ne sert à rien, mais qui est un reste de cette deuxième paupière qu'ont beaucoup de reptiles, qui permet d'humidifier l'œil. Donc ça, c'était des preuves des organes vestigiaux, qui sont des preuves très fortes que les êtres vivants actuels résultent d'évolution depuis un ancêtre commun, et qui n'est pas... le résultat d'un, comme ferait un ingénieur. Une autre type de preuve, donc c'est le fait que donc le code génétique, hein, vous savez que donc l'ADN dont on parlait tout à l'heure, la double hélice a un code génétique formé de 4 lettres, un TCG, qui est transcrit en ARN messager et ensuite traduit en protéines. Donc les codons, c'est-à-dire des groupes de 3 lettres, donnent un acide aminé, et donc un gène est formé de un certain nombre de codons. Qui code pour une certaine chaîne d'acides aminés qui donne une protéine. Et donc ce code génétique, hein, donc on voit ici les 3 lettres, la première lettre, la deuxième lettre et la troisième lettre. Et donc par exemple cette combinaison AAG donne une lysine quand elle est traduite. Donc il y a un code génétique et ce code génétique est universel. Il a été hérité depuis l'ancêtre commun de tous les êtres vivants. Et d'ailleurs, si on aligne, si on prend une protéine, par exemple, chez l'être humain, le rat, le poulet, donc plein d'animaux, on prend une protéine. Donc là, chaque lettre est un acide aminé. Et on peut aligner entre les différentes espèces, ici en ligne. Et on voit qu'il y a des acides aminés qui sont communs entre toutes les espèces et d'autres qui sont variables, qui montrent aussi ce changement au cours du temps. Et donc, on le représente souvent sous cette forme de cet arbre généalogique. Hein. Donc, si on compare les séquences de certains gènes de différents êtres vivants, on reconstruit leur proximité génétique. Hein. Donc, pour beaucoup de protéines, l'homme va être plus similaire aux cochons, les reptiles plus similaires aux oiseaux, et ils seront encore plus éloignés des levures ou des bactéries. Et donc, encore plus fort que le code génétique universel, hein, le fait qu'on arrive à reconstruire ces arbres généalogiques et qu'on arrive à trouver le même arbre généalogique pour différents gènes dans le génome. Alors on pourrait dire, oui, mais quand même, l'homme ressemble assez au porc, donc c'est normal qu'il ait des protéines plus similaires, même sans qu'il l'ait hérité d'un ancêtre commun. Mais c'est vrai, même si par exemple on regarde des séquences qui ne sont pas codantes, qu'il y a beaucoup d'ADN, de parties d'ADN qui ne servent à rien, qui ne codent pas pour des protéines. Et même quand on prend ces bouts d'ADN qui ne codent pas pour des protéines, on arrive à reconstruire souvent les mêmes types d'arbres généalogiques avec les mêmes relations de parenté. Et on ne peut pas expliquer ça autrement que le fait qu'ils dérivent d'un ancêtre commun en changeant progressivement. Et évidemment, comme l'homme s'est différencié du porc depuis plus récemment qu'ils ne se sont différenciés des poissons ou des reptiles, ben, ils ont accumulé moins de différences. Ils se ressemblent plus, et tout le long de leur ADN. Et donc ça, c'est une preuve aussi très forte de l'évolution, de la différenciation depuis un ancêtre commun, on ne peut pas l'expliquer autrement. Et donc, on revient à la différence entre Lamarck et Darwin. Hein, donc, avec maintenant notre information, la formation génétique, et maintenant, on arrive à séquencer pour vraiment pas cher beaucoup de génomes, on retrouve cet arbre de Darwin. On arrive à retrouver dans les traces dans l'ADN les traces de cet ancêtre commun universel à tous les êtres vivants actuels. Et on retrouve ces relations de parenté qui sont le reflet du fait que les espèces avaient des ancêtres communs plus ou moins proches dans le passé. D'autres preuves de l'évolution, c'est l'évolution qu'on peut observer en direct. Donc, un exemple connu, c'est l'évolution de la résistance aux antibiotiques. Donc là, on voit ici la prévalence, par exemple, d'une résistance à antibiotiques administrée contre des otites chez des enfants en Finlande, et en fonction de la dose, on voit aussi en parallèle les volumes d'utilisation d'antibiotiques. Hein, et donc, plus on utilise d'antibiotiques, plus la résistance évolue, évidemment. Hein, tout mutant, de bactéries mutantes résistantes aux antibiotiques seront les seules qui vont arriver à survivre quand on administre beaucoup d'antibiotiques, et donc vont augmenter en fréquence dans les populations. Donc là, on visualise vraiment l'adaptation, l'évolution en direct, la sélection. Donc là, en l'occurrence, indirectement sélectionné par l'homme. De la même façon, pour lutter contre les maladies des cultures, hein, on voit ici la rouille du blé, c'est une maladie assez embêtante du blé. Donc les agronomes génèrent régulièrement des nouvelles variétés résistantes. Donc on voit ici, par exemple, différentes variétés résistantes de blé qui ont été introduites en culture pour lutter contre cette maladie, la rouille du blé. Et on voit ici la virulence du champignon qui cause la rouille. Et à chaque fois qu'on a introduit une nouvelle résistante dans la plante, le champignon a évolué une nouvelle virulence, il a contourné la résistance, parce qu'évidemment, les quelques rares mutants qui arrivaient à infecter ces nouvelles plantes résistantes étaient les seuls qui arrivaient à pousser sur ces cultures, ils augmentaient en fréquence, donc c'est de l'évolution, de l'adaptation. Et donc ça se produit très rapidement, car la force de sélection est énorme. Donc il y a plein d'exemples, là aussi la résistance aux fongicides, on voit ici l'efficacité des fongicides sur une autre maladie du blé, la septoriose du blé, au cours du temps. Et donc ça diminue puisqu'on répand des fongicides. Évidemment, si un mutant apparaît dans le champignon qui arrive à être résistant aux fongicides, il va être le seul à arriver à pousser, il va augmenter en fréquence et donc l'efficacité globale des fongicides va diminuer. Alors un exemple classique d'évolution en direct, hein, ça a été faite sur cette phalène du bouleau, ce petit papillon, en Angleterre pendant la révolution industrielle. Donc vous voyez ici la forme ancestrale blanche qu'on voit à peine ici. Donc elle se camoufle sur les arbres qui ont des lichens. Hein, vous voyez ici du lichen, on la voit pas. Donc bon, évidemment pour échapper à ces prédateurs vont pas la voir. Alors lors de la révolution industrielle, les lichens ont disparu à cause de la pollution. Et donc ces formes-là, sur les troncs d'arbres sans lichen, étaient extrêmement vues des prédateurs. Et ben, il y a une forme noire, un mutant noir qui est apparu et qui a augmenté en fréquence fortement. Et toutes les phalènes sont devenues noires. Elles sont passées de cette forme blanche à cette forme noire qu'on ne voit pas là sur le tronc. Parce que, donc, évidemment, ces formes noires avaient une meilleure survie. Donc ils ont augmenté en fréquence par sélection. Là, on voit dans une région, là, plus c'est noir au fond la carte, plus c'est industrialisé, donc moins il y avait de lichen sur les arbres, alors que là, c'était moins industrialisé. Et donc, vous voyez ici avec les camemberts, la forme blanche de la phalène et la forme noire qui corrèlent très bien avec l'endroit où c'était industrialisé ou pas. Et ici, il y avait une forte sélection pour les formes noires qui n'étaient pas vues des prédateurs, alors qu'ici, c'est les formes blanches sur les lichens qui étaient camouflées des prédateurs. Et donc, ici, dans la région très industrialisée, il y a une sélection au cours du temps assez rapide pour la forme noire, mais ici, la forme blanche est restée parce que les lichens étaient toujours là sur les arbres. Et donc, il y a des chercheurs quand même documentés après, à la fin de la révolution industrielle, les lichens sont revenus, hein, il y avait moins de pollution, et à nouveau, la forme blanche a été sélectionnée. On voit ici la fréquence de la forme noire qui a diminué au cours du temps, hein, dans trois endroits différents, parce qu'à nouveau, donc sur les lichens, elle était moins vu des prédateurs, et donc avait un avantage de survie, et donc a réaugmenté en fréquence. Donc, il y a d'autres exemples de sélection qu'on peut voir en direct, d'évolution, d'adaptation. Par exemple, on est en train de voir une évolution vers une réduction des défenses chez les éléphants d'Afrique, alors que ça leur sert à beaucoup de choses, à se nourrir. C'est a priori normalement avantageux dans les conditions naturelles, sauf qu'évidemment, ceux qui ont des plus grosses défenses sont plus chassés. Et donc là, il y a une sélection pour les éléphants qui ont des très petites défenses, voire pas du tout. Donc l'évolution, hein, c'est un changement des fréquences alléliques, une fréquence des variants. Il faut bien voir, la théorie de l'évolution est à la fois très simple, hein, comme on a vu, le principe est très simple, voire évident a posteriori. Hein, il y a des différences entre individus, elles sont génétiques, des variants permettent de mieux survivre ou de se reproduire, nécessairement ils augmentent en fréquence. Et pourtant, ça peut être très difficile, on peut faire beaucoup d'erreurs de raisonnement, parce que l'être humain n'est pas très habitué à raisonner en fréquence, en longtemps. Et c'est pour ça, hein, comme Ophélie vous expliquera, que les modèles mathématiques sont beaucoup utilisés en biologie évolutive. Et donc, en particulier, ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les mécanismes qui sont responsables pour cette évolution de fréquence allélique. Hein, on voit bien ici, c'est la fréquence, la proportion dans la population de la forme noire. Donc, quelles sont les forces ? Donc, on a vu beaucoup la sélection naturelle, mais ce n'est pas la seule force qui fait changer les fréquences alléliques. Il y a quatre forces évolutives quatre forces principales qui font changer ces fréquences alléliques. Donc, on va les voir en détail. Donc, il y a la mutation, donc, qui n'est pas très puissante pour faire changer les fréquences alléliques, mais qui est la seule force qui permet d'introduire des nouvelles variations dans la population. Donc, la sélection naturelle, qu'on a déjà vue. La dérive génétique, donc, c'est-à-dire la stochasticité. On va revenir là-dessus. Hein. Les fréquences des variants génétiques dans les populations changent sous l'effet de la sélection, mais aussi parce que les populations ne sont pas infinies. Et donc, il y a des variations stochastiques de fréquences alléliques qui peuvent avoir des importances énormes au cours de l'évolution. Et on va voir aussi la migration entre des populations. Hein, s'il y a deux populations qui ont des fréquences de variants différents et qu'il y a des échanges entre eux, ben, ça va homogénéiser les fréquences alléliques. Donc, on va voir ces quatre forces évolutives. Donc, la mutation, hein, c'est une erreur lors de la réplication de l'ADN. Donc, vous savez, une molécule d'ADN, donc c'est une double hélice, et au moment où une cellule se divise en deux cellules, eh bien, une molécule d'ADN se réplique pour donner deux molécules d'ADN. Donc, il y a un mécanisme, des enzymes spécifiques qui répliquent fidèlement la molécule d'ADN, sauf que de temps en temps, elle fait des erreurs. Donc, normalement, en face d'un T, elle fait un A, et en face d'un G, elle fait un C. Donc, elle arrive à répliquer fidèlement la nouvelle molécule. Mais là, on voit qu'elle a introduit une erreur. De temps en temps, elle se trompe. Alors, le plus souvent, c'est corrigé, mais pas toujours. Et donc, ça va changer la fréquence allélique, ça va introduire un nouveau variant. Donc, ça se produit très rarement, hein, les fréquences de mutation. Et d'ailleurs, la plupart du temps, elles sont délétères. Donc, heureusement, c'est très rare. Mais c'est la seule façon d'avoir des nouveautés dans l'évolution. Les autres forces n'introduisent pas de nouveautés. Elles font que changer les fréquences des variants qui existent. Là, c'est une force qui ne change pas les fréquences alléliques très vite. On peut le montrer avec des modèles mathématiques, mais qui est la seule façon d'introduire de la nouveauté. Alors, cette nouveauté, elle peut être introduite de différentes façons. On peut changer. Donc, on a vu que dans l'ADN, il y a des gènes qui donnent des protéines. Et donc, si on change un des acides aminés de la protéine, ça peut changer la fonction de la protéine. Un exemple classique, c'est ces souris qui ont des couleurs différentes. Alors, encore une fois, pour se protéger des prédateurs, on voit quand elles sont noires, elles sont mieux cachées sur les rochers, alors que quand elles sont claires, elles sont mieux cachées sur le sable. Et donc, cette différence de couleur est due à une différence de juste quelques acides aminés à un seul gène. Donc, c'est une protéine membranaire qui a plus ou moins d'affinité avec différents précurseurs de mélanine et qui donne deux formes de mélanine plus ou moins foncées. Donc, une des mutations qu'on connaît les plus, c'est ce changement d'un acide aminé dans une protéine qui peut changer sa fonction. Il peut y avoir aussi complètement perte du gène. Par exemple, donc, les mutants albinos, ils ont perdu la capacité complète à faire de la mélanine, ils sont tout blancs. C'est une seule mutation, ça peut être une seule mutation qui a un changement drastique dans le phénotype, dans l'aspect de l'animal. Et donc, on a retrouvé assez récemment quelle a été la mutation qui a fait apparaître cette forme noire dans la phalène du bulot. Donc, ici, vous avez un gène de développement de l'aile, le gène cortex. Et bien, dans la forme noire, il y a un gène sauteur qui s'est inséré. Donc, dans notre ADN, donc on a nos gènes qui servent à faire l'organisme vivant, mais il y a aussi ce qu'on appelle des gènes égoïstes qui servent à rien à part à se répliquer. C'est un peu des parasites de l'ADN. Ils sont capables de se copier-coller dans le génome. Donc, ils existent parce qu'ils sont capables de se copier-coller. Mais souvent, ils font des mutations dans les gènes, en se copiant-collant au milieu d'un gène. Alors, la plupart du temps, c'est délétère, c'est désavantageux. Mais de temps en temps, ça donne une variation qui est avantageuse. Et là, en particulier, donc, ça a cassé ce gène qui permettait de faire cette forme très sophistiquée qui ressemblait à du lichen et qui a donné, donc assez facilement, juste un gène sauteur qui s'est inséré dans ce gène-là, ça a donné la forme noire qui a été sélectionnée. Il y a aussi des mutations qui peuvent changer, pas le gène lui-même, le gène ne bouge pas, mais va changer le moment ou l'endroit où il est exprimé. Vous savez que toutes nos cellules ont les mêmes gènes, le même génome, mais on a des cellules différentes, quand même, les cellules qui produisent nos cheveux, notre cœur, elles sont différentes parce qu'elles expriment des gènes différents à différents moments de la vie ou à différents endroits dans notre corps. Et donc, une mutation sur cette partie d'ADN qui dit à quel moment et à quel endroit doit s'exprimer le gène peut aussi avoir des conséquences extrêmes. Un exemple classique chez l'être humain, ça va être le changement d'expression de la production de la lactase, donc qui permet de digérer le lait. Donc chez la plupart des animaux, hein, la capacité à digérer le lait chez les mammifères est uniquement chez les bébés, chez les petits, quand ils allaitent, pour se nourrir du lait de leur mère. Et puis à l'état adulte, ils ne sont plus capables de digérer le lait, ils arrêtent de produire cette lactase qui ne sert plus à rien. Et bien chez l'être humain, il y a des populations qui ont évolué par un changement d'expression, ils sont toujours capables à l'état adulte d'exprimer de cette lactase et donc de digérer le lait. Et donc évidemment, ça a été produit par sélection dans les populations qui ont domestiqué le bétail, et donc ils buvaient le lait, et donc là c'était avantageux de pouvoir boire ce lait et donc de digérer le sucre du lait. Et donc vous voyez ici, plus c'est foncé, plus cette persistance de la lactase est en fréquence élevée dans les populations. Donc c'est apparu indépendamment chez différentes populations d'agriculteurs. Et donc il y a un grand nombre d'êtres humains qui sont pas capables de digérer la lactase, qui sont pas capables de produire la lactase à l'âge adulte. Et donc ça, c'est une mutation, une adaptation qui s'est produite par un changement dans le moment d'expression d'un gène. Le gène lui-même n'a pas changé. Une autre adaptation chez l'être humain qui implique aussi un changement de régulation, mais aussi une duplication de gènes. Hein, une façon assez facile de faire de la nouveauté en évolution, c'est que vous avez un gène au départ et il se duplique. Vous avez deux copies de gènes, donc il y en a un qui peut garder sa fonction et l'autre qui peut évoluer rapidement pour prendre une nouvelle fonction sans repartir de rien. Donc ça a été le cas. Donc l'amylase, hein, c'est une enzyme qui permet de dégrader l'amidon, de digérer l'amidon, qu'on trouve par exemple dans le maïs. Normalement elle est exprimée dans l'estomac, et bien chez l'être humain elle s'est dupliquée et il y a un gène qui est exprimé dans l'estomac et un gène qui est exprimé dans la salive qui permet déjà de prédigérer l'amidon. Donc pareil, le gène est le même mais il est exprimé à un moment différent, c'est une mutation qui a changé l'expression de ce gène là et alors des mutations dans les gènes du développement peuvent aussi donner une petite mutation, un changement drastique au niveau de l'apparence de l'animal ou de la plante ou de l'organisme vivant. Donc là, vous avez un embryon de mouche avec différents segments où des gènes sont exprimés différemment. Donc dans ce segment-là, il y a des gènes de production d'une aile qui est exprimée, mais pas dans ce segment-là, qui ne produit pas d'aile. Pourtant, chaque cellule, dans chacun des segments, a tous les gènes. Mais ils ne sont pas tous exprimés pareil dans les différents segments. S'il y a une mutation ici, s'il y a une mutation qui fait que ce segment-là aussi va se mettre à produire une aile, vous avez une mouche avec une paire d'ailes ou deux paires d'ailes en plus. Et donc c'est une petite mutation, mais qui va donner un changement énorme sur l'organisme vivant, qui peut être la plupart du temps délétère, mais de temps en temps qui peut être avantageux. Donc, par exemple, vous voyez ici une salamandre, et sa forme à l'état adulte, et vous voyez ici une espèce très proche, génétiquement très proche et qui ressemble à ça, qui est très différent. Mais en fait, cette forme-là ressemble beaucoup à la forme larvaire de cette salamandre. Et donc, en fait, c'est une petite mutation dans le développement qui a fait que, dans cette lignée-là, ces animaux deviennent adultes à un stade qui était l'état larvaire chez leurs ancêtres. Et donc, en fait, ils restent à l'état larvaire, sont capables maintenant de se reproduire à l'état larvaire, et ça change complètement, drastiquement leur forme. D'ailleurs, on pense que l'être humain est néoténique, donc on appelle ça la néoténie, c'est-à-dire de devenir adulte à un état qui était l'état larvaire ou infantile chez l'ancêtre. Et l'être humain en particulier ressemble beaucoup plus, l'être humain adulte ressemble beaucoup plus à un chimpanzé enfant qu'un chimpanzé adulte sur beaucoup de choses, sur la tenue, la bipédie, la taille du cerveau, la capacité à jouer, à apprendre tout le long de la vie. Et donc il y a eu probablement une étape de néoténie, c'est-à-dire d'acquisition de la capacité à se reproduire à un stade qui était avant l'état infantile chez les ancêtres. Et donc qui change drastiquement, évidemment, l'aspect de l'organisme vivant. Donc ça, c'est différents types de mutations, hein, donc ce qui peut expliquer qu'on peut avoir des petits changements progressifs ou des grands changements qui tout d'un coup vont changer drastiquement des formes vivantes. Et donc ça, c'est la seule force qui peut permettre d'introduire de la nouveauté dans les populations. Et donc après, il y a ces trois forces-là qui font changer les fréquences, donc à partir de ces mutations, qui peuvent soit les faire disparaître, soit les faire augmenter en fréquence. Donc il y a la sélection naturelle, hein, donc on a déjà vu ce schéma, mais il est vraiment, vraiment important, c'est la base pour comprendre et pour pouvoir raisonner sur la sélection naturelle sans se tromper. Il faut vraiment toujours penser qu'il y a de la variation dans les populations Et si on veut comprendre pourquoi un caractère évolue, pourquoi un comportement existe, la seule façon vraiment de raisonner sans se tromper, c'est de se dire pourquoi ce variant-là, il a permis de mieux survivre ou de laisser plus de descendants que les autres. Et à ce moment-là, forcément, il a augmenté en fréquence dans les populations, voire a envahi les populations. Donc, une autre façon de voir, et donc il faut la variation génétique, l'héritabilité, des différences de survie ou de nombre de descendants. Et donc, la sélection naturelle change la composition des populations, la fréquence des variants. Donc, un autre exemple de la façon dont la sélection naturelle fonctionne, si vous imaginez ces moustiques avec, par hasard, des mutants résistants, qui apparaissent régulièrement, qui la plupart du temps servent à rien, mais si vous répandez un insecticide, tous les moustiques sensibles vont disparaître, ne vont rester que les résistants, et donc forcément, la population va devenir résistante. C'est de l'adaptation, de l'évolution, c'est de la sélection naturelle, enfin, plus ou moins naturelle. Et donc, c'est comme ça qu'on peut expliquer ces adaptations extraordinaires. Alors on peut se dire, mais comment cette araignée a pu ressembler à ce point à sa proie? Mais il suffit qu'au départ qu'il y ait une vague ressemblance qui soit déjà avantageuse, qui lui permette d'approcher un peu plus près ses proies. La fourmi va évoluer les fourmis qui seront capables de reconnaître l'araignée vont augmenter en fréquence, mais l'araignée qui va ressembler un peu plus par une mutation à la fourmi va encore augmenter en fréquence. Et donc c'est vraiment sur des échelles de temps, il faut imaginer des échelles de temps immenses géologiques et des petites variations, et si chaque variation est avantageuse, là, au cours du temps, on peut arriver à cette araignée. Celle-là aussi, c'est une araignée qui ressemble à sa proie ici, la fourmi eucophile. C'est un insecte qui ressemble à des feuilles. Il suffit qu'au départ, il y ait une petite ressemblance qui fait qu'un prédateur puisse le prendre un peu pour une feuille au départ. Puis petit à petit, le prédateur va apprendre à le reconnaître parce qu'un variant qu'il aura reconnu aura une meilleure survie. Et chaque nouvelle variation qui va augmenter un peu la ressemblance va être sélectionnée. Donc sur des échelles de temps géologiques, ça permet des adaptations inouïes comme ça. Et donc si on reprend l'exemple de l'être humain, qui peut paraître tellement sophistiqué qu'on peut se dire, une des critiques classiques des créationnistes est de dire qu'une moitié d'œil ne sert à rien, donc l'évolution ne peut pas fonctionner pour expliquer l'œil. Mais donc, c'est mal comprendre comment fonctionne l'évolution. Ce n'est pas qu'il y a une moitié d'œil, c'est qu'il y a des intermédiaires qui sont tous avantageux. Et on connaît aujourd'hui des organismes vivants qui ont des formes d'yeux plus ou moins complexes. Et donc, on peut très bien reconstruire un peu quelle a été l'évolution de la complexification des yeux. Donc, c'est pas tel. Ici, elles ont juste quelques cellules photosensibles. Elles sont juste capables de dire est-ce qu'il y a de la lumière ou pas. Donc, s'il fait jour ou nuit, s'il y a un prédateur qui passe au-dessus. Donc c'est déjà très utile. Après, il y a des gastéropodes ici qui ont des cellules incurvées, et donc du coup, ça leur permet de savoir d'où vient la lumière, suivant quelles cellules sont... Si ces cellules-là reçoivent la lumière, c'est que la lumière vient d'ici. Si ces cellules-là reçoivent la lumière, c'est que la lumière vient d'ici. Donc c'est juste une petite incurvation qui donne un avantage énorme, qui permet de dire d'où vient la lumière. Et si la cavité est encore un peu plus refermée, ça permet d'avoir une image plus précise sur ces cellules. Et il y a même la lentille qui permet de focaliser vraiment sur la rétine, a évolué plusieurs fois. Ici, on voit deux évolutions indépendantes de la rétine. Il y a aussi une évolution indépendante chez les vertébrés, pareil de la rétine. Donc, c'est arrivé plusieurs fois. Donc, ce n'est pas si improbable que ça. Et donc, il y a même un troisième œil qu'on appelle l'œil pariétal chez les reptiles, sur la tête, qui sont juste quelques cellules photosensibles aussi, qui sont capables de dire s'il fait jour ou nuit et qui ont un rôle dans les rythmes circadiens, donc jour ou nuit chez ces êtres vivants. Et donc, nous, on a perdu ce troisième œil, mais on a encore des restes sous la forme de cette glande pinéale qui continue à réguler nos rythmes circadiens. Donc, comme je vous disais, je vais prendre quelques exemples pour vous montrer que c'est vraiment pas si évident toujours de raisonner correctement en évolution, même si le principe de base est très simple. Le fait de raisonner en fréquence et sur des longues échelles de temps rend les choses un peu difficiles. Et souvent, on se dit ce qui est sélectionné, c'est ce qui est bien pour l'espèce, ce qui est bien pour la population. Alors, la plupart du temps, c'est vrai. Un variant qui augmente en fréquence, la plupart du temps, il donne une adaptation qui est bonne globalement pour la population. mais ce n'est pas toujours vrai. Et donc, alors, par exemple, des cas de comportement qui peuvent être difficiles à expliquer, hein, donc c'est mâle chez cette araignée, qui se font manger souvent par les femelles, et ils le font activement. Ils cherchent à être mangés, c'est-à-dire qu'ils font un mouvement actif de bascule vers la bouche de la femelle. Donc là, on peut dire, mais donc ça peut sembler aberrant, ils vont avoir une moins bonne survie, donc ça devrait être éliminé par sélection naturelle. Et donc, la seule façon de se poser la question, hein, tout comme toujours, si on veut savoir pourquoi un comportement évolue ou un caractère existe, c'est est-ce que s'il y a un variant génétique qui contrôle ce caractère, ce comportement, est-ce qu'il va permettre d'avoir une meilleure survie ou de laisser plus de descendants, c'est-à-dire de faire plus de copies de lui-même à la génération suivante. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Donc les mâles ici en rouge qui se font cannibaliser, qui se font manger par la femelle, donc qui ont ce mouvement de se faire manger par la femelle, ben, ils fécondent plus d'œufs, donc ils ont plus de descendants. Donc ce variant génétique qui induit le comportement suicidaire dans ce cas-là de se faire manger par la femelle, il permet de laisser plus de descendants. Pourquoi ? Parce que du coup la femelle est occupée à manger, la copulation dure plus longtemps, il transfère plus de spermatozoïdes qui fécondent plus d'œufs. Et donc oui, ce comportement diminue la survie, mais augmente le succès reproducteur et donc le nombre de copies de ce variant qui va être laissé à la génération d'après, si de toute façon les mâles en question ont peu de chances de trouver une autre femelle après avec qui s'accoupler. Il y a d'autres exemples, et on reviendra dessus dans un cours prochain, qui peuvent apparaître difficiles à expliquer de prime abord. Donc, caractères qui diminuent la survie. Donc, par exemple, cette queue chez les paons, ben, ça lui permet quand même de moins bien voler, de moins bien échapper aux prédateurs. Il est plus vu, il arrive moins à s'enfuir. D'ailleurs, les femelles ne sont pas du tout pareilles. Hein. Donc, comment a pu évoluer par sélection naturelle ? Comment ça n'a pas été éliminé par sélection naturelle ? Ces caractères handicapants qui font que ça donne une moins bonne survie. Donc, encore une fois, la seule façon de répondre à la question, c'est de se dire, est-ce qu'un variant qui contrôle ce type d'ornement extravagant laisse plus de copies de lui-même à la génération suivante ? Donc, il y a des expériences classiques qui ont été faites. On a regardé, suivant la longueur de la queue de certains oiseaux, le nombre de nids qu'ils arrivaient à faire, le nombre de descendants qu'ils arrivaient à faire. Mais alors, dans les populations naturelles, le problème, c'est qu'il peut y avoir plein d'autres caractères plus ou moins corrélés, associés. Donc, il y a des manipulations expérimentales qui ont été réalisées. Donc, il y a des chercheurs qui ont raccourci la queue de ces mâles oiseaux ou qui les ont raccourcis puis recollés pour voir s'il n'y a pas juste un effet de la manipulation, ou qui ne l'ont pas du tout manipulé, ou qui ont rallongé la queue de ces mâles oiseaux. Et on voit que les queues qui ont été rallongées font énormément plus de descendants que les mâles qui ont une queue plus courte ou raccourcie ou juste une queue naturelle. Donc les femelles préfèrent une queue plus longue. Donc c'est comme ça que ça a évolué. Alors on me dirait, pourquoi est-ce que les femelles préfèrent les mâles avec un ornement handicapant ? Donc elles vont avoir des fils qui ont aussi une moins bonne survie. Donc on verra ça dans le cours sur la semaine prochaine sur l'évolution des comportements. Donc encore une fois, pour comprendre l'évolution, vraiment, il faut faire attention à ce qu'on appelle les raisonnements panglossiens, donc qui viennent du docteur Pangloss dans Candide de Voltaire, qui disait que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'on a un nez pour porter des lunettes. Et souvent, on entend ça alors dans les documentaires animaliers, par exemple, ce comportement évolue pour perpétuer l'espèce. Mais non, l'évolution naturelle ne fonctionne pas pour perpétuer l'espèce. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus qui dit « ça, c'est bon pour l'espèce, et donc ça va évoluer ». C'est vraiment un variant qui augmente en fréquence parce qu'il permet de faire plus de descendants ou avoir une meilleure survie. Alors, la plupart du temps, ça permet une meilleure survie, une meilleure persistance de l'espèce, mais pas toujours. Un exemple classique, c'est un parasite qui n'a pas intérêt à tuer son hôte. Si le fait d'être plus virulent et de tuer son hôte lui permet de mieux se transmettre et donc d'augmenter en fréquence dans la population, il va augmenter en fréquence dans la population, quitte à ce que dans 10 générations, il n'ait plus aucun hôte à infecter. Mais il ne peut pas prévoir en avance que ça va arriver. L'évolution est myope. Elle fonctionne vraiment par une augmentation en fréquence des variants qui permettent de faire le plus de descendants, même si à long terme, ce n'est pas bon pour l'espèce. Donc il faut vraiment faire attention au raisonnement panglossien et toujours revenir à la question de quel variant permet de faire plus de copies de lui-même à la génération suivante, donc survit mieux et ou laisse plus de descendants. C'est un aspect que Stephen Jay Gould, donc un formidable vulgarisateur de la théorie de l'évolution, avait aussi appuyé. Il avait pris l'exemple de la basilique Saint-Marc à Venise, où il disait ces écoinçons, là, ces parties en triangle, sont magnifiques. On a l'impression que l'architecte l'a fait exprès pour les décorer. C'est magnifique. Mais en fait, c'est juste le résultat architectural de ce dôme. On ne peut pas faire ce dôme sans faire ces écoinçons. Et donc, il a émis un peu cette idée de dire, si on veut expliquer un caractère, il ne faut pas toujours non plus demander et de toujours vouloir trouver un avantage sélectif, de dire il permet de faire plus de descendants ou de laisser une meilleure survie. Il peut y avoir aussi, et on va avoir des exemples, des contraintes ou des résultats d'autres types de corrélations. Par exemple, si on veut se demander pourquoi l'hémoglobine est rouge, on peut faire plein d'expériences en se disant pourquoi c'est avantageux d'avoir un sang rouge plutôt qu'un sang bleu. On peut essayer de voir est-ce que les gens qui ont un sang rouge laissent plus d'enfants ou survivent mieux. Mais en fait, le fait que l'hémoglobine soit rouge, en fait, c'est juste le résultat indirect d'une sélection pour une affinité au fer. C'est juste une conséquence pour la sélection d'un autre caractère. Et donc, c'est un exemple où il ne faut pas être toujours panglossien et de se dire que chaque caractère est avantageux et est le résultat de la sélection naturelle. Il y a des caractères qui peuvent être là par juste corrélation avec une autre caractère ou de contraintes physiques. La sélection naturelle ne peut pas tout faire. Par exemple, on ne pourrait pas générer ces éléphants avec des pattes toutes fines comme Dali avait imaginé. Parce que simplement, des pattes toutes fines ne supporteraient pas le poids de ces éléphants. D'ailleurs, si on regarde le diamètre du fémur, donc les os des jambes en fonction du poids du corps, on a une très belle corrélation qui est le résultat de cette contrainte. Étant donné un poids donné, on est obligé d'avoir une taille de fémur minimale pour soutenir le poids. Et donc la sélection naturelle ne peut pas non plus faire n'importe quoi, même si ça avait un avantage. Et dans ce qu'on appelle aussi en évolution des compromis évolutifs, des fois on ne peut pas tout faire. Là par exemple, chez ces oiseaux, donc suivant la distance entre les deux yeux, donc plus les deux yeux sont rapprochés, plus il y a un recouvrement entre la vision des deux yeux, ce qui permet d'avoir la vision en trois dimensions. Donc là par exemple, la vision des deux yeux se recoupe sur cet arc, et donc là, cette chouette voit en deux dimensions ici. Par contre, ici, l'autruche a les yeux beaucoup plus écartés, et donc il y a un très faible endroit où elle peut voir en trois dimensions, mais du coup, elle a une beaucoup plus forte amplitude, elle voit à presque 360 degrés. Donc il y a un compromis à faire, il y a des contraintes, entre soit on voit mieux en trois dimensions en ayant les yeux rapprochés, soit on voit une plus grande amplitude, il faut faire un compromis, on ne peut pas tout avoir. Et donc souvent, les prédateurs ont les yeux plus rapprochés pour arriver à foncer sur leur proie avec une plus grande précision pour voir en trois dimensions, alors que les herbivores qui ont des prédateurs voient plus avec un champ d'amplitude plus large, ont les yeux plus écartés, pour voir arriver les prédateurs de plus loin. Et donc, encore une fois, non seulement il y a des contraintes, des compromis à réaliser, des corrélations, et puis les organismes vivants sont juste le résultat d'une histoire de modifications progressives depuis un ancêtre commun. Et toutes les mutations les plus avantageuses ne se sont peut-être pas produites. Vraiment, l'évolution fonctionne en bricoleur. Alors, la troisième force évolutive, c'est la dérive génétique, qui est beaucoup moins connue que la sélection naturelle et qui pourtant a une grande force, peut faire énormément varier les fréquences alléliques. Donc l'idée, c'est par exemple, vous avez différentes billes de couleurs avec des fréquences différentes dans une bouteille et vous en prenez au hasard que quelques-unes. La fréquence ici de vos couleurs ne va pas être la même que la fréquence au départ. Vous n'avez pas sélectionné, vous n'avez pas choisi des couleurs en particulier, vous avez pris au hasard juste quelques billes. Par hasard, vous n'aurez pas exactement la même fréquence qu'au départ. Or, les populations naturelles, elles ne sont pas infinies. Si les populations naturelles étaient infinies, la sélection naturelle, les changements de fréquence allélique d'une génération à l'autre seraient uniquement explicables par la sélection naturelle, par exemple, et la mutation. Mais dans une population, donc on peut simuler, encore faire des modèles, si on regarde la fréquence allélique, on simule mathématiquement les changements de fréquence allélique d'une génération à l'autre dans une population où il n'y a que 10 individus, sans sélection, mais juste par hasard, on choisit parmi les gamètes de la génération d'avant, on en choisit 10 au hasard. Ben, ça ne va pas être une représentation exacte de la génération d'avant. Et donc, là, on a différentes répétitions, différentes populations qui évoluent avec 10 individus. On voit que ça change très vite. Les fréquences alléliques changent juste par hasard, par stochasticité, parce que les populations ne sont pas infinies. Ici, on a la même chose, mais avec une taille de 100 individus, donc la stochasticité est moins grande, il y a une meilleure représentation de la population de départ. Donc il y a quand même une stochasticité, un changement de fréquence allélique, mais beaucoup moins fort que dans une petite population. Donc plus les populations sont petites, plus la dérive génétique a un fort impact. Et donc en particulier dans la population humaine, ça a eu des grandes influences, mais dans toutes les populations, ça joue. Donc ça peut contrecarrer l'évolution, faire qu'elle est moins efficace. Donc par exemple, vous savez que l'être humain est originaire d'Afrique, la variation génétique en Afrique est beaucoup plus grande que dans le reste du monde. Donc l'être humain est sorti d'Afrique il y a à peu près 100 000 ans et il a envahi le globe, mais il n'y a qu'une petite partie de la diversité génétique d'Afrique qui est sortie et qui a envahi le monde. Et donc il y a eu un énorme, ce qu'on appelle un goulet d'étranglement, une forte dérive génétique qui font que les fréquences alléliques ici ne sont pas les mêmes qu'ici et pas uniquement par sélection. Aussi par cette dérive génétique, cet effet stochastique, ce goulet d'étranglement. Et il y a eu plein d'effets encore plus forts chez l'être humain, mais il y en a dans toutes les populations naturelles tout le temps. Donc, par exemple, cette population au Saguenay, donc c'est des Français qui sont venus au Québec au XVIIe siècle, relativement peu, seulement 5000 individus. Et ils sont restés isolés parce qu'ils parlaient, ils avaient une religion différente, ils parlaient une langue différente. Donc ils se mariaient au sein de leur communauté. Et ils ont eu beaucoup d'enfants, donc ils ont eu une expansion démographique énorme. Et bien, ils ont une douzaine de maladies génétiques spécifiques de cette population et qui est rare ailleurs dans l'espèce humaine, parce que juste par hasard, dans ces 5000 fondateurs, il y en avait quelques-uns qui étaient porteurs de ce variant génétique qui causait ces maladies génétiques. Et donc, ils s'est retrouvés en fréquence beaucoup plus grande que dans la population française de départ, juste par hasard, par échantillonnage. Et qui, comme cette population continuait à uniquement se marier entre elles, ces variants sont restés en forte fréquence, malgré la sélection. Un autre exemple un peu similaire, donc c'est vraiment ce goulet d'étranglement. On ne choisit pas, mais il n'y a que quelques individus qui fondent une nouvelle population. Juste par hasard, c'est des variants qui sont globalement différents dans la population de départ, ce n'est pas les mêmes fréquences. Et donc chez les Amish, c'est un peu la même chose. Ils sont descendants de seulement 30 Suisse fondateur, donc il y a eu un goulet d'étranglement énorme, une stochasticité énorme. Ils sont restés se marier au sein de leur groupe, et donc ils ont aussi des maladies génétiques à très forte fréquence, comme ce syndrome avec un doigt supplémentaire et des problèmes de cœur. Un autre exemple, et c'est dans un atoll du Pacifique, donc il y a eu un typhon en 1780 qui a tué tout le monde sur cet atoll, à part 30 survivants, et il y en avait un qui était porteur d'une maladie génétique qui faisait qu'il ne voyait pas les couleurs. Et bien maintenant, il y a 10% de la population qui souffre de cette maladie. Et donc, ce n'est pas le résultat d'une sélection. Et pourtant, ça a une forte importance dans les populations. C'est vraiment juste le résultat de la dérive génétique de la stochasticité. Donc, si on regarde encore une fois l'image de la dérive génétique, on voit, si on part de fréquences alléliques, de variants qui sont en fréquence équilibrée, 50% chacun, la dérive génétique, plus elle est forte d'ailleurs, plus elle va faire perdre rapidement dans chaque population. On voit qu'on perd un des variants. Si on part de deux variants, chacun à 50%, il y a des populations qui vont en fixer un et d'autres populations qui vont en fixer l'autre. On perd la variation génétique. La sélection, c'est pareil. On a vu, on parle d'une variation au départ. On sélectionne le variant qui permet de mieux se reproduire ou de faire plus de descendants. Il augmente en fréquence, il se fixe dans la population. On perd la diversité. Donc, une des questions en biologie évolutive a été longtemps mais alors pourquoi on a encore du polymorphisme dans les populations ? La dérive génétique doit les faire disparaître, la mutation les fait réapparaître, mais elle devrait être très vite perdue par dérive ou par sélection, soit contre-sélectionnée, soit sélectionnée rapidement. Donc, comment on arrive à maintenir du polymorphisme ? Pourquoi il y a encore du polymorphisme ? Donc là, c'est des formes de papillons différentes, mais c'est une seule espèce. Dans l'espèce humaine, on connaît aussi la variation sur plein de caractères, y compris la couleur de la peau. Pourquoi on a encore autant de variations dans les populations naturelles ? Alors, au départ, on s'est dit que ça doit être la sélection qui doit maintenir. Mais quelle sélection peut maintenir du polymorphisme, de la variation dans les populations ? Alors, il y a un type de sélection qui peut le maintenir, c'est un avantage de l'hétérozygote. Donc, vous savez, on a tous une copie d'un gène qui vient de notre père, une copie d'un gène qui vient de notre mère. Et donc, si on a des copies différentes, on est hétérozygote. Et donc, si l'hétérozygote a un avantage sur les deux homozygotes, alors on maintient la diversité, puisque le fait d'avoir deux différents est sélectionné. Donc, on va garder les deux variants. Et donc, au départ, on a trouvé quelques exemples. Donc, on était contents. Par exemple, l'exemple classique, c'est l'anémie falciforme. C'est une maladie génétique qui fait que les globules rouges ont une forme de fossile, qui fait qu'ils ne transportent pas bien l'oxygène. Donc, ça produit une anémie. Donc, c'est une maladie génétique qui est contre-sélectionnée, hein, qui fait qu'on ne vit pas très vieux. Seulement, ceux qui sont hétérozygotes, c'est-à-dire qui ont un allèle défectueux, mais un allèle correct, eux, ils sont résistants à la malaria. Et donc, ils ont un avantage énorme. Et on voit effectivement ici la distribution de cette maladie colle assez bien à la distribution de la malaria. Donc, cette maladie est très fréquente dans ces populations. Il y a un polymorphisme, une variation qui est maintenue parce que les individus qui ont les deux allèles différents ont un avantage, survivent mieux parce qu'ils sont résistants à la malaria. Donc, dans ces cas-là, on arrive à maintenir le polymorphisme effectivement dans les populations. Seulement, on n'a pas trouvé beaucoup d'exemples de ce type-là. C'est très rare qu'il y ait un avantage comme ça de l'hétérozygote. Ça ne peut pas expliquer tout le polymorphisme, la variation qu'on voit dans les populations. Alors, une des façons de maintenir de la variation, c'est si la sélection n'est pas la même partout. Et c'est le cas chez l'être humain. Hein. Donc, la couleur de la peau corrèle très bien à la latitude, parce que donc, autour des tropiques, l'ensoleillement fait que les UV sont très dommageables pour l'ADN. Et donc, le fait d'avoir beaucoup de mélanine permet de protéger contre les effets délétères de la mélanine. Alors qu'à haute latitude, si on a une peau trop foncée, on n'arrive pas à synthétiser bien la vitamine D, on ne reçoit pas assez de soleil. Et donc, il y a vraiment une sélection pour une peau claire à haute latitude et une peau foncée autour des tropiques. Et donc, ça maintient la variation dans la population humaine. Donc, il y a des exemples. La variation est souvent hétérogène dans l'espace. Donc, ça peut permettre d'expliquer de la variation. Il peut y avoir aussi une sélection qui est différente qui dépend de la fréquence. C'est-à-dire que si un allèle, au moment où il devient rare, parce qu'il est rare, a un avantage, il va réaugmenter en fréquence. Donc ça a été suggéré pour les gauchers, par exemple. On trouve dans toutes les populations humaines à peu près le même pourcentage, relativement faible, mais pas négligeable, de gauchers, alors qu'ils meurent beaucoup plus jeunes que les droitiers. On ne sait pas exactement pourquoi, mais ils ont plus d'accidents. Ils meurent plus jeunes, donc on pourrait imaginer qu'ils devraient disparaître des populations. Ça a une certaine forme d'héritabilité, donc ça a une composante génétique. Et pourtant, c'est dans toutes les populations, à la même fréquence, et même dans les populations, on a pu estimer, préhistoriques. Et donc, ce qui a été suggéré, c'est que ça a donné un avantage de la surprise, le fait d'être rare, d'être gaucher, dans les combats 2-2. Les droitiers ont souvent l'habitude de se battre avec des droitiers, les gauchers ont l'habitude de se battre avec des droitiers, par contre les droitiers n'ont pas l'habitude de se battre avec des gauchers, ils ont l'effet de la surprise et un désavantage face à un gaucher. Donc le gaucher, rare, a un avantage dans les combats et dans les sports, effectivement, où c'est souvent à 50% droitier-gaucher, toute forme rare a un avantage et peut augmenter en fréquence. Alors, dans les populations naturelles, il y a une sélection fréquence dépendante de la fréquence, en particulier dans les relations hôtes parasites. Hein. Vous voyez ici un virus, une chenille en train de se faire manger par un parasite, une fourmi mangée par un ver parasite. Donc, les pathogènes sont une force évolutive énorme, hein, ils induisent une forte mortalité, et ils s'adaptent très vite, et ils s'adaptent à la forme la plus fréquente de leurs hôtes dans la population. Et donc, s'il y a un allèle de résistance rare dans la population, un allèle rare dans la population, haute, il va avoir un avantage puisque les parasites ne seront pas adaptés à lui. Il va réaugmenter en fréquence. Donc, ça, c'est une forme de sélection. Donc, la sélection qui peut dépendre, qui est hétérogène dans l'espace ou qui dépend de la fréquence, peut être avantagée, permettre d'obtenir du polymorphisme. Et donc, c'est ce qu'on appelle la coévolution haute parasite. Il y a des exemples, par exemple, une très jolie étude. Donc, il y a ces petits animaux ont été récupérés dans des couches sédimentaires, donc à différents temps dans le passé, et elles étaient encore vivantes, et leurs parasites étaient encore vivants. Et donc, ces chercheurs, ils ont inoculé des parasites de différents temps dans le passé sur des daphnies de différents temps dans le passé. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que les parasites contemporains étaient toujours meilleurs à infecter leurs hôtes contemporains que les hôtes du passé ou les hôtes du futur. Donc il y a une évolution sans cesse, un avantage des formes rares, et donc sans cesse une évolution. Donc ça permet d'expliquer le maintien du polymorphisme dans les populations. Un autre exemple de sélection dépendante de la fréquence, c'est les sexes différents, hein, le fait d'être mâle et femelle. On peut se demander pourquoi il y a toujours dans toutes les populations autant de mâles que de femelles, y compris dans les populations où 3/4 des mâles ou 9/10 des mâles ne se reproduisent pas. Hein, quand il y a des harems comme les lions de mer ou chez les cerfs, les lions, il y a un mâle qui monopolise plein de femelles et donc les autres mâles ne se reproduisent pas. Donc pourquoi les populations continuent à faire 50% de mâles et de femelles? Donc c'est là où on peut se dire, typiquement un raisonnement panglossien dirait, ça serait mieux un sexe ratio de 3/4. Hein. Si chaque femelle qui est limitante pour le nombre de descendants, parce qu'elle s'occupe toute seule de ses petits dans ses espèces, avec 3/4 de femelles, une population augmente beaucoup plus vite en taille qu'avec un sexe ratio de 1,5, alors qu'il y a plein de mâles qui ne se reproduisent pas. Donc pourquoi il y a toujours autant de mâles? On se dirait, pour le bien des populations, il vaudrait mieux qu'il y ait moins de mâles dans ces populations avec des harems. Mais ce n'est pas comme ça que la sélection fonctionne. Elle ne fonctionne pas pour le bien des espèces. Il faut vraiment se demander, imaginons une espèce où il y a 3/4 de femelles pour 1/4 de mâles, quel variant laisse plus de copies de lui-même? Donc c'est avec un sexe ratio de 3/4, chaque femelle fait 2 enfants, là dans cet exemple, mais les mâles, comme il y en a 1 pour 3 femelles, et il fait 6 enfants. D'accord ? Chaque mâle fait plus d'enfants que chaque femelle, puisqu'il faut un père et une mère pour chaque enfant. Donc si on imagine une femelle ici qui fait que des mâles, elle aura plus de petits-enfants. Donc un variant génétique qui fait que là, une femelle ferait plus de mâles, augmente en fréquence jusqu'à un sexe ratio de 1,5. Il y a vraiment une sélection dépendante de la fréquence. Le sexe rare a un avantage, il fait plus de descendants que le sexe fréquent. Et donc on arrive toujours à un équilibre de 50% par sélection naturelle, alors que ce n'est pas avantageux pour la population. Ça, c'est un très bon exemple. Le fait qu'il ne faut pas être panglossien, de se dire qu'est-ce qui évolue qui est bon pour la population. Non, ce qui évolue, c'est qu'est-ce qui laisse le plus de descendants, le plus de copies de lui-même dans la population. Alors, une autre forme de sélection qui permet de maintenir le polymorphisme, c'est ce qu'on appelle la sélection disruptive, c'est-à-dire des sélections pour deux optimaux. Donc, par exemple, chez cet oiseau-là, si on regarde la largeur de la mandibule, du bec, et le nombre d'oiseaux, on voit qu'il y a deux pics. C'est une distribution bimodale. Il y a des oiseaux avec des petits becs et des oiseaux avec des gros becs. Et on voit qu'effectivement, la probabilité de survie a deux pics aussi, parce qu'en fait, il y a deux types de graines dans cette population. Des petites graines, il vaut mieux avoir un petit bec pour manger, et des grosses graines, il faut un gros bec. Et donc, les intermédiaires ont une faible survie, et on les trouve moins dans les populations. Donc ça aussi, ça permet de maintenir le polymorphisme. Cependant, ces différentes forces sélectives peuvent permettre d'expliquer de la variation, mais elles ne peuvent pas expliquer le polymorphisme énorme qu'on voit dans l'ADN. Et c'est donc Kimura, en 1983, qui a proposé la théorie neutraliste et qui a dit qu'en fait, la plupart de la variation dans les populations et dans l'ADN est en fait complètement neutre. C'est du polymorphisme transitoire. Ici encore, on a la variance des fréquences alléliques. De temps en temps, il y a des mutations qui arrivent. Si elles sont complètement neutres, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas plus ou moins de descendants, elles vont augmenter en fréquence ou diminuer en fréquence, mais certaines vont augmenter jusqu'à fixation. Et donc, il y a un moment où il y a du polymorphisme, il y a de la variation dans les populations, juste à cause de la dérive génétique, le temps que ça soit perdu ou fixé. Et donc, c'est une autre façon de dire qu'il ne faut pas être panglossien. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de variations qui est juste neutre et qui est des mutations qui apparaissent, qui dérivent et qui vont se fixer ou pas, mais qui s'égrègent dans les populations. Et d'ailleurs, cette information neutre est capitale pour nous, biologistes de l'évolution. Parce que par exemple, si on veut construire l'histoire de la sortie de l'homme d'Afrique, si on prend des caractères sous sélection comme la couleur de la peau, on ne va pas avoir l'histoire de l'être humain depuis l'Afrique, on aura l'histoire de la sélection pour la couleur de la peau. Si on veut l'histoire démographique de l'être humain, il nous faut des marqueurs génétiques qui ne sont pas sous sélection. Et donc ça, c'est très utile pour étudier l'évolution. Et donc la dernière force évolutive, hein, donc la migration, donc c'est assez simple. Hein. Si on imagine, là, on a deux types d'insectes, ici, on n'en a que des brins, ici, que des vers, et qu'on a des migrations, donc là, on a 100% de cette fréquence allélique, là, 100% de cette fréquence allélique, toute migration va changer la fréquence allélique, et très rapidement. Et ça, c'est une force extrêmement rapide et très forte. On peut encore simuler l'évolution de fréquence si on part de différentes populations avec des fréquences d'un allèle différent et qu'on autorise des migrations à chaque génération, ben, rapidement, les populations s'homogénéisent. Hein, plus elles se passent des migrants, plus leur fréquence allélique s'homogénise et elles deviennent pareilles. C'est ce qu'on voit aussi ici, hein, sur ce fameux exemple de la phalène du bouleau. On voit ici qu'il y avait une sélection pour la forme noire, ici une sélection pour la forme blanche, et on voit au milieu qu'il y avait de la migration, et là on a des fréquences alléliques intermédiaires par cette migration. Donc voilà, aujourd'hui on a vu l'histoire de la théorie, les preuves de l'évolution, et les quatre forces évolutives qui sont capitales pour comprendre l'évolution des organismes vivants. Et donc, lundi prochain, on essaiera d'appliquer ces grands principes de l'évolution à l'évolution des comportements pour essayer de comprendre certains types de comportements qui peuvent être a priori parfois difficiles à comprendre, comme pourquoi certaines espèces sont capables d'altruisme ou ces ornements handicapants chez certains mâles. Merci pour votre attention.